Eh bien, bonjour à tous. Et que la paix de Dieu soit avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait 2 semaines que le pasteur m'avait déjà demandé de préparer un message. Je dois dire que ce matin, dans la présidence de Roland, avec tous les passages qu'il a lus, j'ai eu très très peur de ne plus avoir rien à vous dire. Mais comme la Bible, Dieu le dit, la parole de Dieu est un trésor inestimable. Je pense qu'il me reste encore 2 petites choses à vous dire ce matin et vous allez comprendre. Donc, ce que je vais dire par là, bon, je vais dire, on va commencer. On va lire un texte qui se trouve dans Marc, l'évangile de Marc, et ce sera les versets 1 à 12. Marc, oui, voilà. C'est ce que je me disais qu'il manquait quelque chose. Chapitre 2. Marc, chapitre 2, et versets 1 à 12. J'entends plus de pages qui tournent, donc tout le monde y est. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'en sembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sous lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Voilà. Voilà le texte que le Seigneur m'a donné ce matin. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Depuis l'apparition du péché, depuis qu'Adam et Ève ont chuté, le corps est devenu mortel. Il s'use, il vieillit. Et c'est la maladie. C'est ce qu'on appelle la maladie. La maladie, c'est donc l'altération de la santé. Et personne n'est immunisé contre la maladie. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous pouvons tous expérimenter la guérison divine. Même si parfois cela peut paraître long et difficile. Jésus guérit encore. Et c'est le titre que j'ai donné à ce message de ce matin. Comme quoi, Dieu y pourvoit à toute chose. Jésus guérit encore. Donc, pour situer un peu ce contexte de ce que nous venons de lire, de voir dans ce passage, l'histoire se déroule à Capernaum, un lieu où Jésus avait quitté quelques jours plus tôt avec l'intention d'échapper à la foule pour se reposer quelque temps, parce que sa renommée se répandait de plus en plus. Et voilà, donc il voulait prendre un peu de distance, si on peut dire. Mais aussitôt, il revient dans cet endroit, aussitôt revenu, il est à nouveau envahi par une grande foule. Encore une fois, on peut dire, la nouvelle s'est très vite répandue. Et alors qu'il n'y avait plus d'espace devant la maison, devant l'endroit où il était dans la maison, il se voit déposer à ses pieds un paralytique couché sur un lit par 4 hommes. Nous remarquerons 3 choses dans ce texte. Le dévouement, la foi et la guérison. Le dévouement de 4 hommes, 4 amis, qui par la foi ont tenté l'impossible pour amener cet ami jusqu'à Jésus, qu'ils ont entendu dire qu'il était dans le coin, dans leur village, afin que Jésus guérisse cet homme. C'est donc sur ces trois points que je vais ce matin porter ma réflexion et la réflexion du message, ce qui me permettra de parler à tous ce matin et en particulier à ceux qui sont malades, bien sûr. Parce que je sais que nous avons beaucoup de malades, plusieurs malades dans l'Assemblée, et c'est ce premier sujet que l'Esprit m'a soufflé quand j'ai su que je devais prendre la parole ce matin. Et la preuve, il y a encore des malades. Encore ce matin, nous avons des malades de plus. Donc avant toute chose, je voulais affirmer, comme j'ai dit tout à l'heure, que Jésus guérit toute maladie, quelle que soit spirituelle ou physique. Il guérit la maladie de l'âme et il guérit la maladie du corps. Savez-vous pourquoi? Eh bien, il guérit toute maladie parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et aussi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, nous revenons au texte. Jésus est donc de nouveau à Capernaum. Une foule très nombreuse prend possession des lieux. Les gens se pressent de partout et je peux dire qu'il n'y a pas de voie privée, il n'y a pas de, comment dirais-je, d'ambulance. Et il n'y a pas non plus de place réservée aux handicapés pour pouvoir se faufiler et se mettre devant à la première place. Et ne voilà-t-il pas que quatre hommes décident de porter leur ami malade, atteint de paralysie, jusqu'à Jésus pour qu'il le guérisse. Alors que l'espace devant la porte de la maison, je l'ai dit, se trouve où se trouve Jésus, ne peut contenir cette foule. Ces hommes sont déterminés à tel point qu'ils vont innover. Ils vont contourner la foule, passer par les trois et créer une ouverture et descendre cet homme jusqu'à Jésus pour que Jésus le guérisse, pour que Jésus guérisse cet homme. On pourrait se demander, mais pourquoi était-il si dévoué, si déterminé, et penser que porter leur ami jusqu'au regard de Jésus était très aimable de leur part. Mais c'est bien plus que cela, frères et sœurs, ce matin. C'est bien plus que cela. Leur action doit nous enseigner la compassion que nous devrions avoir envers nos frères et sœurs malades, en détresse, par la souffrance, le découragement, l'angoisse. Et nous poser cette question, portons-nous nos malades devant le Seigneur? Sommes-nous conscients de cela? Est-ce que nous portons nos malades devant le Seigneur Jésus ce matin? On l'a suggéré, on en a parlé ce matin, mais c'est la question qui a encore à se poser. Et c'est ça que je me suis posé, qui m'a inspiré en préparant ce message. Portons-nous nos malades devant le Seigneur? Eh bien, nous sommes exhortés par ce récit à la compassion et à la miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, nous dit Matthieu 5, verset 7. Les miséricordieux sont ceux qui ne pensent pas seulement à leur propre misère, mais qui compatissent à la misère de leurs frères et sœurs. Ils sont animés d'une compassion agissante. La vraie miséricorde se manifeste toujours en acte de bonté, comme nous le montrent ces quatre hommes qui ont eu la conviction que Jésus pouvait et allait guérir. Nous qui sommes chrétiens, nous avons fait l'objet de l'amour infini de Dieu, nous devons pratiquer la charité, la miséricorde à l'égard des affligés. Nous devons porter nos malades devant le Seigneur dans la prière. Soyons tous animés de cette pensée de présenter nos malades à Jésus avec foi en sa puissance. Donc les amis du malade avaient justement une très grande foi. Avec cet homme atteint de paralysie, ils montrèrent leur foi en prenant des risques, en passant par les trois, franchissant de nombreux obstacles, créant une ouverture pour arriver à Jésus convaincu de la puissance de sa puissance, convaincu de la puissance que Jésus pouvait guérir et qu'il allait le faire. Leur exploit vient du fait qu'ils croyaient fermement que Jésus pouvait et allait guérir cet ami. Et le verset 5 souligne que Jésus vit leur foi. Nous lisons cela dans le verset 5 du texte. Jésus vit leur foi. On peut dire qu'une foi ferme ne considère aucun obstacle pour se diriger vers Christ. La foi est ingénieuse parfois quand on voit ce qu'ils ont accompli. La foi est ingénieuse et c'est ce que l'on appelle une foi active, une foi agissante par ses œuvres. La foi est donc une confiance totale, une ferme assurance des choses qu'on espère. La puissance de la foi est si grande qu'en ayant la foi comme un grain de sénévé, tout nous serait possible, nous dit Luc, le chapitre 17 et au verset 6. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, et il se déplacerait. Ainsi donc, par la foi, ces hommes sont parvenus jusqu'à Jésus, qui a accueilli ce malade paralysé par des paroles d'encouragement pour leur foi collective, on peut dire extrêmement efficace. Après avoir reçu ce paralytique par des paroles d'encouragement, Jésus prononce le pardon de ses péchés. Cela choque les scribes, mais Jésus évite de débattre longuement avec eux, censurant leurs mauvaises pensées, il ordonne au paralytique de se lever, de prendre son lit et de rentrer chez lui. On peut dire dans le cas présent que Christ voulait montrer que sa grande mission dans le monde était de sauver le peuple de ses péchés. C'est pourquoi il a évité de débattre avec les scribes qui commençait à l'accuser de blasphème lorsqu'il a commencé par dire « Tes péchés te sont pardonnés ». Le fait que Jésus prononce d'abord le pardon des péchés avant la guérison laisse à penser que ce malade n'était pas né de nouveau et ne connaissait pas Christ comme son sauveur personnel. Pourquoi je dis cela? Parce que autrement, on aurait tendance à comprendre que tous les malades ont des péchés à confesser, alors que les Écritures ne suggèrent en rien que toute maladie serait conséquence de péchés non confessés. Même si, en effet, la cause originelle, on a dit tout à l'heure dans la présidence, même si la cause originelle de toute affliction est bien le péché qui a déchu l'humanité. Mais prenons comme référence Jean chapitre 9 et les versets 1 à 3, lorsque à la rencontre de l'aveugle né, les disciples posèrent cette question à Jésus de savoir si c'était lui ou ses parents qui avaient péché pour être malade. Et Jésus qui répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc, comprenons bien ce que je voulais dire par là. Donc, Jésus, lors de son incarnation, était pleinement Dieu et à ce titre, omniscient. C'est donc, et dans notre texte, au verset 5, quand il dit « Tes péchés te sont pardonnés », il savait que cet homme-là était, que la maladie de cet homme-là était la conséquence de ses péchés. C'est pourquoi son intention première fut de séparer son cœur du péché, lui apporter d'abord le réconfort de la paix avec Dieu, et ensuite le réconfort de la guérison de sa maladie. C'est pourquoi je n'aimerais pas ce matin que vous déduisez que toute maladie est cause de péché. Mais le pardon du péché pénètre jusqu'à la racine de la maladie quand il en est la cause, quand c'est la maladie et la cause du péché. Le pardon pénètre jusqu'à la racine pour que nous soyons guéris. Et ainsi, dans ce contexte, Jésus a prouvé son pouvoir de pardonner le péché quand celui-ci paralyse. Le pécheur convaincu de l'aide du Sauveur devra montrer sa foi en ayant recours à son Sauveur pour être libéré. Beaucoup de gens pensent encore, comme le pensaient les scribes et les pharisiens de l'époque, que les maladies ou les souffrances sont dues au péché commis. Mais je voudrais, par ce passage, apporter un réconfort à vous tous qui êtes enfants de Dieu et qui êtes souffrants ce matin. Vous avez une quelconque maladie qui vous handicape à tel point que le désespoir s'est installé dans votre cœur. Certaines personnes ont semé le doute en vous, vous faisant même croire que la maladie venait de Satan. Moi, je connais quelqu'un qui... Moi, je suis malheureux, j'arrive pas à le convaincre. Des fois, j'ai même envie de le faire sortir chez moi parce que dès qu'elle a quelque chose, elle panique, elle dit « Ah, c'est... Ah, le diable, c'est le diable. Satan, qui c'est qui t'a envoyé ?» Dès qu'elle a quelque chose qui lui fait mal dans son corps, ah, tu vas sortir de là, sors de là, qui c'est qui t'a envoyé? C'est un truc, c'est affreux. Moi, je n'arrive pas à lui faire comprendre, mais dès qu'elle a quelque chose qui lui fait mal, quelque chose qui ne va pas, sa première réaction, c'est qui c'est qui t'a envoyé? Qu'est-ce que tu fais là? Satan, sort de là. Et, non, mais ce n'est pas rigolo, mais c'est pour vous faire comprendre. Comment, quelquefois, on se laisse troubler, c'est ça le mot, troubler par cet ennemi. Donc, je veux vous dire ce matin que la maladie ne vient pas de Satan. Ne croyons pas et ne vous laissez pas perturber par ces fausses affirmations. Votre maladie ne vient pas de Satan. Si vous êtes né de nouveau, Satan n'a pas de pouvoir sur vous. Car qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? C'est la parole de Dieu qui le dit. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? C'est très important. Retenez ceci. En ce qui concerne le péché, la parole dit en Jean 1, 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, car le sang de Jésus purifie de toute iniquité. » La maladie est présente depuis le péché originel, comme je l'ai souligné en introduction. Par la désobéissance du premier homme Adam, le corps est devenu mortel et a immédiatement été transformé et est devenu un sujet à toutes les souffrances et misères de la vie. La maladie en fait partie. Autrement dit, mis à part l'usure et le vieillissement. Quand un chrétien est malade, cela doit être considéré comme une épreuve. Dieu permet parfois l'épreuve de la maladie. Mais une chose, ce n'est jamais pour nous affaiblir, nous punir ou nous mettre à terre, mais toujours pour nous affermir. Et c'est sans doute pas évident à comprendre. Je compatis ce matin lorsque l'on est de plein pied, entre guillemets, le pied de plein pied là-dedans. Ce n'est pas évident à comprendre, mais croyez-moi, c'est une réalité spirituelle. Alors, si vous marchez avec Dieu et que vous avez foi en lui, tout ce que vous traversez a un sens et tout ce dont vous souffrez produit un poids éternel de gloire. Quelle que soit la maladie, il convient de se tourner vers Dieu qui est capable de guérir si telle est sa volonté. Ce fut le cas d'Ézéchias, nous en avons l'exemple dans le 2 Rois chapitre 20. Le roi Ézéchias qui était malade, il réalisa sa vulnérabilité, qu'il n'était rien sans Dieu, et Dieu entendit sa prière, il fut guéri. Et dans le texte, on voit même que sa vie a été prolongée, je crois, de 15 ans, si je m'en souviens bien. 15 ans, voilà, merci. Oui. La réalité dans la maladie, c'est que le diable ne veut pas que vous sachiez que la grâce de Dieu est sur votre vie, que le Seigneur est à vos côtés, et il ne veut pas que vous pensiez que Dieu fait quoi que ce soit de bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est un perturbateur, un trouble fait et un voleur de joie. Et si vous mordez à l'hameçon, vous finirez par avoir tellement de doutes et de mauvaises opinions de vous-même que vous cesserez de croire que Dieu vous bénit en tout et qu'il a de merveilleux plans pour votre vie. Alors ce matin, peu importe ce dont vous souffrez, je veux que vous sachiez que le Seigneur est à vos côtés son regard se jette sur vous. Il voit votre foi et il vous dit, prends courage. L'ennemi ne triomphera pas de vous tant que vous resterez dans la présence du Seigneur. Selon la Bible, Satan ne pourra nous toucher la santé qu'avec l'autorisation de Dieu en considérant le livre de Job que mon frère a cité tout à l'heure. Satan ne pourra toucher à notre santé qu'avec l'autorisation de Dieu. Mais on ne voit jamais dans la Bible Satan envoyer une maladie, dominer sur une maladie, encore moins ôter la vie de quelqu'un par la maladie. S'il arrivait, je dis bien, s'il arrivait que Dieu autorise à Satan à toucher la santé d'un chrétien à l'image de ce qui s'est passé pour Job, ce serait en fonction de son niveau de spiritualité. Car Dieu ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et dans l'histoire de Job, il est à souligner, Job était un homme intègre et droit devant Dieu. Job était un homme intègre et droit devant Dieu. Donc son histoire met en lumière un but spécial des souffrances des justes et la vraie manière de les accepter. Sinon, pour résumer et entamer la conclusion, sachez que la Bible relate beaucoup de cas de malades. Parfois nous lisons, ce fut pour la gloire et la puissance de Dieu, pour que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent. Comme par exemple pour Lazare, dans Jean 11, verset 4. D'autres fois, c'est une épreuve pour fortifier la foi, ou quelquefois à cause d'un péché qui a irrité Dieu, pour ramener à la repentance, Dieu manifeste sa colère en envoyant une maladie. On a des exemples dans la Bible de rébellion ou de blasphème, où on voit que Dieu est tellement irrité qu'il fait pression, quoi, entre guillemets, sur cette personne par la maladie pour faire revenir cette personne à lui. Et tout ça, c'est par amour, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste de cette façon. Donc, on peut dire que, quelles que soient les circonstances, le malade trouve toujours la grâce de Dieu pour le soutenir. Psaume 103, verset 3 nous dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Jacques 5, verset 15 nous dit, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » On peut donc affirmer sans conteste que, quelle que soit leur raison ou leur cause, Dieu intervient toujours en grâce et peut guérir toute maladie car il est tout puissant. Il est tout puissant, notre Seigneur. Mais il nous faut aussi retenir que, d'après d'autres passages des Saintes Écritures, que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir. Il peut y avoir un but qui nous dépasse. C'est Lamentations 3:38 nous dit, c'est de la volonté du Très-Haut. C'est de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien. Donc s'il n'y a pas de guérison, c'est parce qu'il y a un plan que nous ne connaissons pas, que nous ne découvrirons peut-être un jour, mais là encore, c'est la volonté de Dieu. Il existe une souveraine sagesse qui nous dépasse et qui dirige l'histoire de notre humanité. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, les versets 8 à 9 et 9. Lorsque nous lui exposons une requête, ayons foi en Dieu pour une réponse. Une réponse peut-être inattendue, je dirais, mais qui sera toujours sage et adaptée à la situation. Soyons conscients de cela. Jésus a toujours eu le pouvoir de guérir et il a ce pouvoir encore aujourd'hui. Mais quelquefois, les circonstances ne sont pas favorables. À Nazareth, par exemple, selon Matthieu 13, verset 58, il est écrit, « Il ne put accomplir beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité de ces gens. Alors réfléchissez là-dessus. Et pour terminer, quelle que soit votre maladie, gardez à l'esprit que le Seigneur vous aime parce que vous êtes son enfant. Le Seigneur vous aime parce que vous êtes son enfant et il a une très haute considération pour vous. C'est lui qui vous a créé et à ses yeux, vous avez de la valeur. Il se soucie de vous et bien, bien plus que vous ne l'imaginez. N'en doutez pas ce matin, n'en doutez plus ce matin. Le Seigneur vous aime, il se soucie de vous bien plus que vous ne l'imaginez. C'est lui qui a écrit votre histoire, donc vivez-la avec lui. Et à tous, que Dieu, par son Esprit Saint, nous donne d'avoir de la compassion et la miséricorde avec une foi active pour porter nos frères et sœurs malades devant le Seigneur par la prière, afin qu'il jette son regard sur eux et les guérisse selon leur foi et selon sa volonté. Croyons que celui qui guérit l'âme peut aussi guérir le corps. Amen. Merci.